Père Paul-Marie de Mauroy, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour, merci beaucoup.
Voilà Père, on vous retrouve pour cette émission mensuelle et vous allez poursuivre donc sur ce thème déjà commencé la fois dernière, thème de sur l'hypersensibilité. Je vous laisse
oui,
la parole.
Oui, tout à fait. Donc, je vais rappeler un petit peu, comme je le fais à chaque fois, quelle est la perspective dans laquelle nous nous plaçons pour ces émissions, qui est très particulière, mais en même temps, qui touche beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec le démon, qui sont agressées de façon extraordinaire avec le démon, et qui n'arrivent pas à trouver la délivrance. Voilà. Donc, il s'agit d'ouverture dans laquelle le démon s'infiltre pour agresser des personnes qui sont du coup victimes d'agressions extraordinaires, mais qui ne sont pas possédées, ni obsédées, ni vexées, selon le langage un peu technique qu'emploient les exorcistes. Alors, quand on n'arrive pas à atteindre la délivrance malgré les exorcismes, malgré les prières délivrance, malgré une vie chrétienne fervente, sacramentelle, il faut se poser la question s'il n'y a pas ces portes ouvertes. Donc nous en avons vu déjà un certain nombre depuis le début de l'année scolaire et nous étions arrivés à celle de l'hypersensibilité. Alors on a déjà fait une méditation là-dessus, donc je vais rappeler ce que j'ai dit la dernière fois puis nous allons poursuivre un peu plus loin. De quoi s'agit-il quand on parle d'hypersensibilité ? Je vous avais rappelé que la personne humaine a une vitalité très complexe, une vie et des opérations vitales très multiples, variées, autre chose est de marcher, de manger, de dormir, et puis de penser, d'aimer, de voir, d'entendre, etc. Bon. Eh bien, toute la multiplicité de ces opérations vitales, elles peuvent se catégoriser en trois domaines. Le domaine végétatif qu'on partage avec les plantes, le domaine sensible qu'on partage avec les animaux et le domaine spirituel qui nous est propre. Le domaine spirituel, évidemment, étant fait pour Dieu, pour rejoindre Dieu, le contempler, l'aimer. Et la vie végétative, elle est très liée au corps. Et entre les deux, il y a la vie sensible. Alors, la vie sensible étant intermédiaire, elle peut être ordonnée à la vie spirituelle, mais elle peut être aussi ordonnée à la vie végétative, mais elle peut aussi se développer par elle-même en dehors de son ordre à la vie spirituelle. Et cela a un désordre et une désharmonie dans la personne humaine dont le démon se sert après pour agresser les personnes parce que ce désordre est contraire à l'intention du Créateur. Le Créateur, Dieu, a créé l'âme où se trouve le degré de vie spirituelle, pas seulement, hein, c'est le principe de toute la vie, mais disons que dans l'âme qui n'est pas matérielle, qui n'est pas sensible, eh bien, il y a l'esprit. Et cet esprit, il est fait pour Dieu, pour contempler et aimer Dieu, comme on l'a dit. Et la vie spirituelle, la vie sensible, pardon, est à son service. Je vois, j'entends une personne, c'est pour la connaître. Voilà. Et je la connais avec l'intelligence et avec le cœur. Si j'ai jamais vu ni entendu, j'aurais du mal à la connaître. Voilà. Donc cette vie sensible, elle est bien ordonnée à la vie spirituelle, mais j'ai la capacité de la développer pour elle-même. Alors, pourquoi est-ce que c'est une porte ouverte au démon ? Ben, tout simplement parce que ce développement excessif de la vie sensible, avoir une sensibilité développée est une bonne chose. Hein, mais lorsque le développement de la vie sensible est tel que la vie spirituelle en est affaiblie, et là je parle de la vie spirituelle au plan naturel, je ne parle pas de la grâce, je ne parle pas de la vie de la foi, l'espérance ou la charité, je parle au plan naturel. Lorsque la vie sensible est trop développée, eh bien, ça se fait au détriment de la vie spirituelle. Or, c'est cette partie de la vie de l'homme qui gouverne le corps. Et si elle est trop faible, eh bien, elle n'arrive plus à gouverner le corps et le démon prend la place. C'est-à-dire, c'est lui qui va intervenir. Alors, si je suis chrétien et si j'ai une vie sacramentelle, il n'y a pas de danger que je sois possédé. Mais je peux voir, et c'est ce qu'on constate dans l'expérience, que des personnes, malgré une vie chrétienne et celle fervente, eh bien, ils ont aussi poids des agressions tout à fait extraordinaires du démon. Je prends un seul exemple. Au moins 80% des personnes qui souffrent d'un mari de nuit, ce qu'on appelle un mari de nuit, une femme de nuit, eh bien, souvent, c'est dû à la conjugaison d'une hypersensibilité et d'une hérédité chargée. L'hérédité chargée, on avait vu ce type de porte ouverte. Il y a tout de suite, évidemment, deux types d'hypersensibilité, l'hypersensibilité affective et l'hypersensibilité cognitive, puisque la sensibilité humaine se développe dans ces deux directions, affective et cognitive. Affective, c'est les passions, par exemple, les émotions, et cognitive, ça sera par exemple l'imaginaire, l'imagination trop développée. Les conséquences de cette hypersensibilité, rapidement, c'est des problèmes de sommeil. Alors, on n'arrive pas à s'endormir, à trouver le sommeil parce qu'on pense trop. Et on pense avec l'imagination au lieu de penser avec l'intelligence. Mais quand on veut s'endormir, c'est pas le moment de penser. Mais on n'arrive pas à contrôler et à maîtriser ça. On pense tout seul. Et on n'arrive pas à arrêter. Et c'est impossible. Il faut s'y prendre autrement. Donc, problème de sommeil, j'arrive pas à m'endormir. Et si je m'endors parce que je suis épuisé, eh bien, j'ai un sommeil qui n'est plus réparateur. Je peux même dormir plusieurs heures de suite. Je me réveille fatigué. Problème d'angoisse, des oppressions au plexus et des angoisses, mais qui ne sont pas motivées. Tout d'un coup, je me retrouve angoissé et je ne sais même pas pourquoi. Et puis, des pertes de mémoire, la mémoire courte, pas la mémoire longue, mais la mémoire courte. Et puis, des pertes de concentration. Un phénomène aussi d'éponge, l'impression qu'on absorbe toutes les énergies, qu'elles soient positives ou négatives. Alors d'où ça vient cette hypersensibilité? La première chose, c'est que ça se transmet par génération. Si j'ai un papa ou une maman ou les deux qui sont hypersensibles, eh bien il y a de fortes chances que parmi les enfants, pas tous, mais certains seront aussi hypersensibles. Alors, on ne naît pas hypersensible, on naît avec les dispositions de l'hypersensibilité. Un enfant, lorsqu'il naît, son intelligence n'est pas, elle est présente, mais elle n'est pas encore éveillée. Donc, il vit dans sa sensibilité. S'il a toutes les dispositions pour être hypersensible, bien évidemment, comme l'intelligence n'est pas éveillée, bien, il y aura des tendances à être hypersensible. Et là, malheureusement, je dois dire qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là parce qu'on parle d'enfants surdoués. Et les enfants surdoués, mais ça c'est les critères d'éducation nationale, hein. L'enfant surdoué c'est quelqu'un qu'on dit hyper intelligent, mais en réalité c'est plutôt un hyper développement de l'imagination où l'enfant sera très doué en logique par exemple, vous le mettez devant un ordinateur, il va tout de suite comprendre ou en peu de temps et puis il pourra vous faire des choses que vous aurez du mal à mettre en œuvre au bout d'un certain temps. Donc, les enfants, quand à l'école sont dits hyper surdoués, il faut faire attention de regarder si c'est pas une hypersensibilité, parce que ça n'a rien à voir avec un développement d'intelligence. Évidemment, l'éducation nationale, elle accompagne le développement des enfants, surtout du côté de ce qui sera plus tard leur métier, hein, c'est-à-dire une grande orientation scientifique, donc vers le raisonnement, mais le raisonnement n'est pas l'intelligence. L'intelligence est beaucoup plus que le raisonnement. Voilà, et pour le raisonnement, l'imagination est très, très, évidemment, très présente. Hein. Alors, on peut développer l'hypersensibilité par la génération, mais aussi, on peut le développer sans s'en rendre compte, parce qu'on est dans une culture de l'image et de la musique. L'image développe l'hypersensibilité cognitive, tandis que la musique, à cause des émotions, peut développer l'hypersensibilité affective. Alors, c'est pas parce qu'on est fan de musique ou de films qu'on va devenir hypersensible, mais il peut y avoir des excès qui développent cette désharmonie dans la nature humaine. Et puis, bien sûr, alors, certains types de méditation, certains types de thérapies énergétiques, comme le magnétisme, par exemple, peuvent vous rendre hypersensible si vous vous soumettez à ces thérapies de façon continue et prolongée. Alors aujourd'hui, je voudrais regarder quelques aspects, d'autres aspects de l'hypersensibilité, surtout les confusions et les manipulations. Les manipulations, on en a déjà parlé un tout petit peu la dernière fois. On va y revenir. Donc, du point de vue des confusions, je disais que l'hypersensibilité, alors pour donner une définition un peu technique, un peu philosophique, on pourrait dire que c'est une disposition stable de la vie sensible. C'est-à-dire, une disposition stable, c'est comme une... en latin, on parle d'habitus. Vous voyez, la science, la sagesse, l'intelligence, ce sont des qualités qu'on acquiert en multipliant certains actes. Voilà, un scientifique, je parle de la science positive, à force de faire des mathématiques ou de la science, eh bien, il acquiert un habitus. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui lui viennent spontanément, une forme d'intelligence, qui fait qu'il a moins de difficultés à entrer dans la science quand il arrête et que voilà, il peut approfondir et faire croître cet habitus. Et bien là, l'hypersensibilité, c'est quelque chose de stable. C'est quelque chose qu'on n'enlève pas facilement. Rétablir l'ordre de la nature humaine, c'est pas aussi simple que ça. Il faut créer un habitus contraire. Voilà, tout simplement. Alors, on en parlera tout à l'heure, hein, comment on perd cette hypersensibilité. Là, je voudrais entrer dans certaines confusions aujourd'hui qu'on trouve très facilement. Donc, comme l'hypersensibilité est à une disposition stable, c'est comme un état médiumnique. C'est-à-dire, quelqu'un qui est hypersensible, sans savoir et sans s'en rendre compte, il est médium. Alors, je sais que dans le langage d'aujourd'hui, parler de médium, surtout pour un chrétien, a une connotation très négative. C'est celui qui va participer aux tables tournantes, par exemple du spiritisme, c'est-à-dire des pratiques occultes qui sont démoniaques. Il y a aussi cette autre tranche de personnes qui ne veut rien avoir à faire avec des pratiques occultes, mais qui est dans un état de sa nature humaine, c'est une disposition stable, c'est-à-dire que même si on l'exerce pas, c'est un état dans lequel la nature humaine est, et c'est un état médiumnique, c'est-à-dire il va ressentir, comme on l'a dit déjà, les ambiances. Par exemple, il rentre dans une salle, il peut dire immédiatement, ah, cette salle, elle est positive, ou elle est négative. Mais il ne faut pas s'y fier, comme je disais la dernière fois, parce que comme le démon a accès au corps, il peut me faire ressentir, il peut intervenir et me faire ressentir ce qu'il veut. C'est-à-dire bon ce qui est mauvais et mauvais ce qui est bon. Donc il ne faut pas se fier à ce qu'on ressent. Ça, c'est une grande clé pour ne pas avoir sa vie bloquée. Parce que quand je prends des décisions, quelqu'un qui a des tendances médiumniques, même s'il n'est pas dans les pratiques occultes, mais à cause de ce désordre de la nature humaine, il va prendre ses décisions selon ce qu'il ressent. Ah, ça je le sens bien, je vais le faire, ça je le sens pas, je vais pas le faire. Mais comme le démon a accès au corps, il sait ce qu'on ressent. Et il a vite compris qu'on prend les décisions en fonction de ce qu'on ressent, et donc il va mettre des obstacles. Et la vie, elle se bloque. Je peux vous dire que la plupart du temps, tous ceux qui sont hypersensibles, eh bien, ils ont de gros problèmes pour avancer dans la vie. Ils ont l'impression qu'ils ont des obstacles de tous les côtés. Voilà, ce qui n'est pas très normal. Bien sûr que la vie est difficile, mais une accumulation d'obstacles, là, il faut se poser la question. Dès qu'on perd l'hypersensibilité, eh bien, c'est fini. On prend des décisions autrement, c'est-à-dire on les prend. Prendre des décisions, ça requiert un discernement. Et au lieu de discerner en fonction de ce que je ressens, qui n'est pas sûr, je discerne avec l'intelligence. Alors, c'est vrai que discerner avec l'intelligence, c'est beaucoup plus sûr, mais c'est plus difficile. Parce que je n'ai pas d'évidence. Alors, discerner avec mon ressenti, je sens pas, c'est immédiat. Tandis qu'avec l'intelligence, eh bien, c'est pas si simple que ça, mais c'est plus sûr dans le sens que le démon ne peut plus intervenir dans le discernement. Moi, je peux me tromper, bien sûr, mais le démon ne peut pas intervenir et tromper l'intelligence. Donc, il vaut mieux discerner en réfléchissant, en se posant des questions, plutôt que dire « Ah ça oui, je le sens bien, c'est bon, ça je le sens pas, non c'est pas bon, il faut que je laisse de côté. » Parce que si je fais ça, eh bien petit à petit ma vie elle va être bloquée ou sérieusement entravée. Donc, il y a une médiumnité, j'allais dire, positive, mais c'est pas le terme juste, parce que de toute façon, elle est négative, dans le sens qu'elle est contraire à l'intention de Dieu sur la personne, donc il n'y a pas de médiumnité positive. Mais positive dans le sens que je ne suis pas dans les pratiques occultes et je ne veux rien, comme chrétien évidemment, je ne veux rien avoir à faire avec ces choses-là. Et puis il y a la médiumnité négative qui est démoniaque, où ces pouvoirs occultes, eh bien je m'en sers. Alors, il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas chrétiennes ou de culture chrétienne, mais pas vraiment enracinées dans des choix du Christ, et qui, évidemment, se laissent séduire par des pouvoirs qu'ils ont. Ils se rendent compte, par exemple, que ils sont guérisseurs, ils imposent les mains, ils prient, et puis la personne guérit. Ou alors ils ont des pouvoirs de concentration, ils se concentrent et puis tout d'un coup vient quelque chose, une image de la personne pour laquelle, à laquelle elle s'intéresse et puis ils peuvent l'aider. Voilà, des gens qui sont de bonne volonté, qui veulent faire du bien à l'humanité, j'en connais plein, et qui ne se font pas payer, qui font ça gratuitement, parce qu'ils ont une espèce de générosité où ils veulent aider l'humanité, c'est tout à fait louable et c'est tout à fait bon, mais pour ça, ils utilisent des pouvoirs occultes. Alors ça, évidemment, le démon, il ne fait pas ça de façon complètement gratuite, et petit à petit, si la personne n'est pas vraiment enracinée dans des choix du Christ, eh bien, elle se laisse entraîner petit à petit par le démon dans des pouvoirs occultes et qui vont être rapidement démoniaques. Donc, il ne faut surtout pas toucher à ces choses-là, surtout pas. Vous voyez, autrefois, dans les campagnes, il y avait les grands-mères qui faisaient passer les verrues, qui arrêtaient le feu. Je me rappelle, quand j'étais dans le Var, pas loin de Toulon, il y avait un restaurateur qui m'avait invité en me disant, écoutez, je ne comprends pas, j'ai acheté ce restaurant qui est pas loin de la plage, qui faisait un bon chiffre d'affaires, depuis que je l'ai pris, c'est fini, il coule, et je suis en train de déposer le bilan. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc j'y suis allé, on a fait des bénédictions, puis ça ne faisait rien du tout. Alors, en parlant avec le tenancier, évidemment, comme elle a vu que j'étais prêtre, elle s'est confiée un petit peu, puis elle m'a dit, vous savez mon père, j'ai un don de Dieu. Je dis, oh, ben ça c'est intéressant, est-ce qu'on peut en parler? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, je guéris, j'enlève les verrues. Ah, ben voilà, alors j'ai dit, écoutez, ben, c'est probablement la source de tous vos problèmes. Parce que enlever les verrues, souvent, les guérisseurs, ils utilisent des formules, et comme ils ne sont pas bien chrétiens, ils ne savent pas discerner que dans les formules, il y a des choses qui ne sont pas du tout du bon Dieu. Je vous donne un exemple de formule, hein, parce que c'est difficile de leur faire dire ces formules, ils ne veulent pas les dire. C'est des secrets qui se transmettent de génération en génération. Eh bien, cette formule, c'était « Par le feu qui brûle le cœur de Judas, je te commande, verrue, enlève-toi. » Évidemment, le feu qui brûlait le cœur de Judas, c'est l'ambiguïté, hein. Il y a deux apôtres qui s'appellent Judas, il y a le traître et puis il y a l'autre, il y a Jude. Hein? Alors il pensait que c'était un Judas bon apôtre, et puis en fait le feu qui brûle le cœur de Judas, on sait bien, le Judas a trahi le Seigneur et puis il l'a fait arrêter et ça a été l'occasion de sa passion. Voilà, alors souvent ce sont des formules qui sont très confuses et qui séduisent, parce qu'il y a des effets effectivement, hein. Les gens arrivent à guérir, à enlever les verrues, à calmer le feu, des brûlures, etc. Mais en revanche, eh bien, petit à petit, se lie au démon à travers ces formules, et petit à petit aussi, il risque, au lieu de guérir, de guérir vraiment, mais en plus, de créer des liens avec la personne sur laquelle il prie, entre guillemets, pour des liens avec le démon. Donc il ne faut surtout pas jouer à ces choses-là. Alors vous voyez tout de suite qu'il y a une autre confusion qui est tout de suite facile à faire, c'est confondre les pouvoirs occultes et les charismes. Les charismes, ce sont des dons de l'Esprit-Saint qui viennent directement de l'Esprit-Saint, qui sont des choses bonnes et qui sont pour la conversion. J'ai fait beaucoup de conférences sur ce sujet au groupe du Renouveau, je m'en rappelle, en Côte d'Ivoire. La responsable nationale du Renouveau charismatique m'avait demandé de faire un colloque sur charisme et délivrance, parce que les évangélistes faisaient beaucoup de prières de délivrance avec des manifestations extraordinaires du démon. Ils disent aux catholiques, ben voyez, le démon, il n'est pas content chez nous, il se manifeste avec force. Alors venez chez nous et puis on vous aidera. Et il faisait beaucoup de ravages. Donc on a mis les pendules à l'heure avec l'exorciste d'Abidjan, le père Abécan, que je connais bien. Et nous avons fait ce colloque sur la confusion justement entre charisme et pouvoir occulte, pour que les charismes viennent bien de l'Esprit Saint, que ce ne soit pas l'usage de pouvoir occulte. Alors, comment on peut discerner si on a un charisme ou si on a un pouvoir occulte? Parce que quelqu'un qui est hypersensible, il suffit qu'il prie, qu'il se concentre, il impose la main, il guérit. Il suffit qu'il se concentre, qu'il prie, et il a une image sur la personne pour laquelle il prie, et il le confond avec une parole de connaissance. Évidemment, si je développe des pouvoirs occultes, croyant que ce sont des charismes, eh bien, je risque après d'avoir des problèmes dans ma vie, qui sont les problèmes que j'ai soulignés tout à l'heure, de blocage de vie, et peut-être des problèmes plus importants. Alors on sait bien que les charismes sont des dons de l'Esprit-Saint qui sont donnés par l'Esprit-Saint quand l'Esprit-Saint le veut. Je me rappelle qu'il y avait un grand charismatique, le père Tardif, Emiliano Tardif, que tout le monde connaît, ça date un petit peu maintenant. Après il y a eu le père Roy, il y a eu enfin, plein d'autres charismatiques comme ça. Et puis le père Tardif, il disait, mais il y a des soirées où il n'y a pas de charisme parce que le Seigneur n'en donne pas, c'est pas automatique. Alors déjà, un premier discernement, celui qui dit « ben moi il suffit que je me concentre, j'impose la main, je guéris », là attention, est-ce que ça ne serait pas un pouvoir occulte? Tandis qu'un vrai charismatique, eh ben, il sait très bien que Dieu donne ou donne pas, et ce n'est pas automatique. Alors la grosse difficulté, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui étaient carrément des prophètes de professionnels, si on peut dire, entre guillemets. Et du coup, c'était tout le temps eux qui avaient les prophéties données par Dieu. Alors comment faire le discernement entre quelqu'un qui reçoit plusieurs fois de suite, et ça arrive même dans le Renouveau, des gens qui sont, je vois des gens très compétents, à Saint-Nicolas-des-Champs, par exemple, à Paris, hein, des prêtres de l'Emmanuel, qui sont vraiment des gens sérieux et qui ont souvent des charismes. Et ce n'est pas de la médiumnité. Alors comment on fait la différence entre quelqu'un qui a une disposition stable, c'est un pouvoir dont il s'en sert quand il le veut. Il suffit qu'il se mette dans un certain conditionnement et puis il advient les effets du pouvoir, c'est-à-dire des communications énergétiques qui peuvent guérir ou des images qui peuvent être confondues avec des paroles de connaissance. Eh bien c'est très facile de faire le discernement, puisque le pouvoir occulte s'accompagne de certains désagréments qu'on a déjà décrits, hein, c'est-à-dire des fatigues, des problèmes de sommeil, des angoisses, des pertes de mémoire courtes, des pertes de concentration, etc. C'est-à-dire qu'un vrai charismatique qui n'est pas hypersensible, il n'aura pas ces problèmes-là. Voilà. Alors, si un charismatique, ce qui peut arriver, est aussi hypersensible, là, ça devient très compliqué. Et pour être sûr qu'il soit vraiment charismatique, il faut qu'il perde cette hypersensibilité et restera simplement les dons de Dieu. Voilà, il y a beaucoup de confusion, malheureusement, dans le Renouveau, entre le charisme et puis le pouvoir occulte naturel, qui n'est pas démoniaque, bien sûr, hein, de guérison, de parole de connaissance, de prophétie et autre chose encore. Voilà, donc il faut être bien attentif, et puisque je parle des groupes de Renouveau, quelqu'un qui est hypersensible, il n'est pas conseillé d'aller dans des groupes du Renouveau. Parce que quelqu'un qui est hypersensible, il peut avoir des attaques extraordinaires du démon et aller dans des groupes du Renouveau pour se faire libérer. Mais le problème, c'est que dans les groupes du Renouveau, qui sont voulus par Dieu, évidemment, qui vient dans ces groupes du Renouveau? Ben, c'est des personnes qui ont besoin de délivrance. Mais si moi j'y vais, je suis hypersensible, je suis comme une éponge et je ramasse tout ce que les personnes chargées qui vont dans ces groupes viennent pour se faire libérer et je ramasse tout ce qu'ils ont. Et très souvent, les personnes hypersensibles, quand ils vont dans des groupes du Renouveau charismatique, eh bien, ils en repartent plus chargés que lorsqu'ils sont arrivés. Donc, il faut faire très attention. Tout n'est pas bon pour tout le monde. Voilà. Donc, quand on est hypersensible, il vaut mieux. Alors, on peut aller, c'est pas interdit d'aller au groupe de renouveau, mais ne pas participer au charisme. Et surtout, faire attention quand c'est des groupes qui accueillent des personnes qui sont lourdement chargées négativement. Parce qu'on peut ramasser et absorber des charges négatives. Et après, pour s'en débarrasser, évidemment, c'est très douloureux et c'est assez long. Voilà, c'est quelques confusions. Je reviens sur la question des manipulations dont je vous avais parlé la dernière fois, en particulier par rapport à la musique et par rapport au commerce. Je faisais le parallèle entre la manipulation qu'on peut faire lorsqu'il s'agit de vendre des produits où on allie l'émotion avec la connaissance sensible, donc la vue par exemple, hein, on met un produit qu'on veut vendre avec une image, par exemple une très belle femme un peu dévêtue qui suscite des émotions, et puis la cogitative fait le lien entre les deux, et quand je vais dans le supermarché, eh bien évidemment, il ne reste que le produit, mais la sensation, elle vient, l'émotion, elle vient, et j'achète le produit parce qu'il me semble bon. Voilà, c'est une manipulation, on peut faire la même chose avec la musique qui produit des émotions, mais avec des paroles dans la musique qui sont de véritables appels aux démons. Donc il faut être très attentif et faire attention de ne pas se laisser manipuler par ces choses-là, parce que les conséquences peuvent être graves. Alors, j'ai parlé la dernière fois, je ferme la parenthèse, j'ai parlé la dernière fois, comment faire pour perdre l'hypersensibilité quand on l'a. Alors, il y a deux points de vue qu'on peut prendre facilement. Il y a une thérapie qui est excellente, qui s'appelle la méthode Vitose, que je recommande vraiment à tous nos auditeurs qui souffriraient d'hypersensibilité, qui est très simple, ce n'est pas du tout psychologique, ce sont des exercices à faire. Alors, souvent, il y a des psychologues qui se mettent à faire la méthode Vitose, hein, mais la démarche, elle n'est pas du tout psychologique, elle est simplement s'habituer à faire quelques exercices et la prendre en compte dans notre vie de tous les jours. Ou alors redévelopper la vie de l'esprit, la vie de l'intelligence et la vie de la volonté par des exercices, là aussi, pareil, attention au réel. Une chose aussi que j'avais pas mentionné la dernière fois, mais je voudrais mentionner aujourd'hui, c'est que si je m'engage à perdre cette hypersensibilité grâce par exemple à la méthode Vitose ou grâce aussi au développement de l'intelligence qui est la faculté de l'attention au réel, hein, c'est pas le raisonnement, c'est l'attention au réel. Voilà, et cette attention au réel n'est pas une concentration. Puisque quelqu'un qui est hypersensible, il aura du mal à se concentrer. Du côté cognitif, je parle, hein, pas du côté affectif. Il aura du mal à se concentrer. Alors, il y a possibilité d'être attentif au réel sans se concentrer. Alors, qu'on fait ? Eh bien, il faut interroger. L'interrogation, c'est l'appétit de l'intelligence qui veut savoir. Et donc, si j'interroge, eh bien, je réveille l'intelligence. Regardez un enfant quand il naît. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'intelligence n'est pas éveillée. Et donc, il vit dans l'imaginaire et il joue tout le temps. Mais à 4-5 ans, il pose des questions. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Ça, c'est le signe que l'intelligence se réveille. Et à ce moment-là, évidemment, dans l'éducation, il faut nourrir l'intelligence pour lui permettre de se développer. Donc, lui donner les explications pour autant qu'il peut comprendre afin qu'il puisse faire grandir son intelligence. Donc, il y a dans les interrogations, des interrogations qui sont formelles et qui ne réveillent pas l'intelligence, et puis des interrogations qui réveillent l'intelligence. Comment on fait le discernement ? Eh bien, les interrogations formelles, ce sont des interrogations toutes faites qui ne viennent pas de la curiosité. Par exemple, je présente une table en bois et je dis à la personne qui est en face de moi, quelle question vous pose cette table ? Si elle me dit en quelle matière est-elle faite, pour poser une question, évidemment, ce n'est pas une question qui réveille l'intelligence, parce qu'on connaît la réponse, elle est en bois, ça se voit. Alors, la question qui réveille l'intelligence, c'est vraiment celle qui vient de la curiosité. Tandis que si je dis Est-ce qu'en quelle matière est-elle faite? Je connais la réponse. Ça veut dire que ça ne vient pas de l'appétit de l'intelligence qui veut savoir. L'appétit de l'intelligence qui veut savoir, elle s'exprime par l'interrogation et ça réveille l'intelligence. Donc il faut être curieux. Un hypersensible n'est pas très curieux ou d'une curiosité qui n'est pas celle de l'intelligence. Il est plutôt un peu blasé, il n'a pas beaucoup de questions à poser. Donc il faut réveiller l'intelligence en posant des questions, des interrogations qui viennent de la curiosité. N'interrogeons pas les réalités du passé. La mémoire est trop proche de l'imaginaire et ça remettrait dans l'hypersensibilité. N'interrogeons pas les situations, c'est trop complexe. Et il vient tout de suite l'imaginaire qui a la faculté d'interprétation. Quelqu'un qui est hypersensible, il n'en a pas besoin, il en a déjà trop. C'est beaucoup plus simple que ça. Il faut interroger la réalité dont maintenant je fais l'expérience. Là, avec la curiosité, évidemment. Donc là, c'est sûr que ça réveillera l'intelligence. Et si je m'habitue à faire ça, eh bien je perds l'hypersensibilité et tout se remet en place petit à petit parce que je développe l'intelligence. Alors, si je me lance dans cette thérapie ou dans ces exercices, mais que, à côté, je ne fais pas attention, c'est-à-dire il y a des lieux où l'hypersensibilité, ça va se redévelopper sans que je m'en rende compte, eh bien je détruis tout le travail que j'essaye de faire pour réveiller mon intelligence. Alors en particulier, on l'a déjà dit, mais je le répète, c'est le monde de l'image. Hein, c'était la télévision, le téléphone, l'ordinateur, Internet, qui sont des choses excellentes, mais si j'en abuse, eh bien je développe l'hypersensibilité. Donc si d'un côté je fais des exercices pour réveiller mon intelligence, et puis de l'autre côté je regarde sans arrêt mon ordinateur ou Internet, sans interruption, eh bien je détruis tout le travail que je fais. Le réveil du matin. Normalement, un hypersensible, son imagination, elle tourne toute la nuit. Et quand il se réveille le matin, il a un imaginaire très 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 développé. Et il met du mal à émerger du lit, parce qu'il est fatigué et il pense qu'en restant au lit, il va se reposer. Mais c'est une erreur, parce qu'il est toujours dans le demi-sommeil, et donc c'est l'hypersensibilité, l'imaginaire qui fonctionne, ce n'est pas son intelligence, même s'il a entendu le réveil, hein, il tape dessus, puis il dit « j'ai encore 5 minutes, je vais rester encore 5 minutes au lit et je vais me reposer ». Non, il faut se lever tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on se lève tout de suite que l'hypersensibilité disparaît. Elle va rester, bien sûr, parce qu'on l'a développée toute la nuit. L'imaginaire a tourné toute la nuit. Donc, il faut faire quelques mouvements de gymnastique. En 5 minutes, on est déjà réveillé. Tandis que si je me lève sans faire l'effort de réveiller mon intelligence, eh bien, je mets 1 heure à 2 heures à me réveiller. Il me faut 4 cafés noirs et 3 douches froides. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça pour me réveiller. Alors qu'en 5 minutes, je fais quelques mouvements de gymnastique, je suis tout de suite réveillé et j'évite ce temps de latence où se développe l'hypersensibilité, ce qui n'est évidemment pas très bon. Nature. Comme un hypersensible est une éponge, il ramasse toutes les bonnes énergies. Alors la nature étant créée par Dieu, il se sent bien dans la nature parce qu'il absorbe les bonnes énergies de la nature, alors sauf ponctuellement, hein, si dans la nature il y a eu un suicide ou une pratique occulte, eh bien le lieu est marqué négativement et l'hypersensible va le ressentir. Pas toujours, mais il peut le ressentir. Alors les hypersensibles aiment bien la nature, sauf que le corps humain est formé d'éléments. La terre, l'air, l'eau et le feu, qui sont des principes. Hein. Le feu, ce n'est pas la flamme, évidemment. Hein, c'est le feu qui est en puissance dans le silex. Quand je frotte contre un autre silex, j'ai une étincelle. Voilà, c'est ce feu qui est en puissance et que nous avons dans notre corps humain. Dans la Bible, on sait bien que le corps a été tiré de la terre. Le deuxième récit de la création le montre. Ces 4 éléments ne sont pas à part égale. Il y en a toujours un qui est plus faible que l'autre, que les autres. Et quand dans la nature, je me retrouve en face de l'élément qui me manque, eh bien spontanément, mon hypersensibilité va se mettre en route et je vais absorber les énergies qui me manquent et je me sens bien. J'ai l'impression de me refaire une santé. Sauf que faire ça, bien sûr, je me sens mieux, mais ça redéveloppe l'hypersensibilité, il vaut mieux éviter ça. Donc comment savoir quel est l'élément qui manque dans mon corps? Eh bien c'est très simple. Il suffit de se poser la question où dans la nature on se sent le mieux. Est-ce que c'est en pleine campagne? Est-ce que c'est en pleine montagne? Est-ce que c'est au bord de la mer? Ou est-ce que c'est les premières chaleurs de l'été? Vous avez compris, les premières chaleurs de l'été c'est le feu. la plaine, la mer, c'est l'eau, la plaine campagne, c'est la terre, et la montagne, c'est l'air, les grands espaces. Alors, si par exemple on me dit, ben moi c'est la mer, c'est là où je me sens vraiment le bien, eh bien ça veut dire que c'est l'eau. Et on peut le vérifier, parce que chacun de ces quatre éléments sont plus présents dans une partie du corps. L'eau, c'est ce qu'on appelle l'aspect ORL, et donc si cet élément me manque, eh bien j'aurai facilement soit des sinusites, soit des rhumes, soit des maux de gorge. Si c'est l'air, évidemment, c'est les poumons, et j'aurai des problèmes de respiration, facilement des bronchites ou de l'asthme. Si c'est le feu, c'est la digestion, donc j'aurai des problèmes de digestion. Et si c'est la terre, eh bien, là, alors par exemple, pour les femmes, ça serait les parties intimes, ou quelqu'un qui est hypersensible du côté de la terre, c'est-à-dire l'élémentaire qui manque, eh bien, il aura facilement, pour une femme, par exemple, des hémorragies lors des règles, des menstruations, ou des menstruations très très douloureuses que les médecins n'arrivent pas du tout à juguler. Tandis que si on perd l'hypersensibilité, tout se remet en place, il n'y a rien à prendre de médicaments en particulier, il suffit de perdre l'hypersensibilité et les menstruations redeviennent normales. Voilà, donc ça c'est la nature. Après, il y a aussi les rencontres personnelles. Quand un hypersensible rencontre quelqu'un pour parler et pour prendre des nouvelles ou quoi que ce soit, la conversation d'ailleurs, il a tendance à fixer le regard parce qu'il veut être attentif. Mais c'est un piège. Parce que plus je fixe, plus ce que je vois devient une image et me renvoie à l'hypersensibilité cognitive. Donc il faut faire attention de ne pas trop fixer pour ne pas être impoli, pas regarder ailleurs quand on me parle. De temps en temps, je regarde dans les yeux, mais pas trop longtemps, parce que sinon, je rentre dans mon hypersensibilité et je perds le fil de la conversation. Et je suis obligé de demander, mais de quoi on parlait, j'ai eu un moment de distraction, etc. Ou alors ce sont les personnes qui sont tellement peu présentes dans la conversation que lorsque vous leur parlez, ils vous parlent en même temps. Ils ne voient pas que vous êtes en train de leur parler, ils vous parlent en même temps. Et le dialogue devient très, très, très éprouvant et très difficile parce qu'on n'arrive pas à stopper. Voilà. Donc, il faut faire attention de ne pas fixer, même dans la prière. Voilà, il y a des personnes, je connais des personnes, qui sont devenues hypersensibles parce qu'ils priaient mal. Au lieu de prier avec l'intelligence, ils priaient avec leur imaginaire. Hein, ce qu'on appelle un petit peu la dévotion. Hein, la dévotion, elle est sensible. Donc, en partie imaginée, c'est pas mauvais, bien sûr. Hein. C'est bon même. Hein. Il faut cultiver ça, mais attention, c'est toujours l'excès. Hein. Donc, il faut prier avec son intelligence, parce que la foi, elle est dans l'intelligence, elle n'est pas dans l'imaginaire. C'est-à-dire être éveillé quand je prie. Devant le Saint-Sacrement, par exemple, dans l'adoration, dans le Saint-Sacrement, je suis éveillé, j'essaye de rester éveillé. C'est difficile, hein, parce que l'Eucharistie ne parle pas, elle est silencieuse, il ne se passe rien, et quand je suis sec comme un coup de trique, c'est encore plus difficile. Mais il faut, ça fait rien. Une fois, Sainte Catherine de Sienne, dans les dialogues, elle se lamente au Père du Ciel en disant « J'ai fait une oraison catastrophique, j'ai passé mon temps à lutter contre les distractions. » Et le Père du Ciel lui répond « C'est la meilleure oraison que tu aies jamais faite. » Parce que quand tu es porté par ma grâce, eh bien, le don de toi-même, c'est le don de la grâce. Tandis que là, tu as dû lutter. Et tu l'as fait par amour pour moi. Et tu t'es donné complètement dans la lutte. Ce qui est très réconfortant, hein, parce que pour nous, l'adoration du Saint-Sacrement, parfois, c'est difficile. On lutte contre les distractions pour rester présent à celui qui est toujours présent dans l'Eucharistie. Il est toujours présent et en attente. Il nous attend. C'est pour ça qu'il s'est donné comme du pain. Pas comme du pain, mais comme l'apparence du pain. Parce que le pain, il n'est pas fait pour rester dans le tabernacle. Vous ne mettez jamais du pain dans le frigo. Le pain, il est fait pour être mangé. Alors, malheureusement, l'homme a c'est terrible, mais c'est comme ça. L'homme a la capacité de s'habituer à tout. Et quand il rentre dans une église, ben voilà, il sait que le Saint-Sacrement est dans le tabernacle. Il s'habitue, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le pain, il est fait pour être mangé. Il y a une espèce belle de Jésus-Eucharistie et je ne peux pas le considérer comme quelque chose qui reste dans le tabernacle et qui est là, comme ça, tout simplement. Non, c'est un appel. Un appel à être mangé. Alors, spirituellement, bien sûr, en premier lieu. Voilà. Donc, prière, je fais attention à rester bien éveillé. Et si je suis hypersensible, je ne fixe pas le Saint-Sacrement trop longtemps. Parce que si je le fixe trop longtemps, je pars. et je ne prie plus du tout. Je pars, je suis distrait, puis ça peut durer une heure, hein, ça peut durer plusieurs minutes, et je ne m'en rends même pas compte. C'est quand je reviens que je m'en rends compte. Donc, il faut que je regarde l'Eucharistie, parce que c'est fait pour être regardé. Le Seigneur a institué les sacrements, justement, pour capter notre sensibilité, qui est ordonnée à l'acte de foi. Je vois l'Eucharistie, j'y dis, Jésus est présent. C'est la sensibilité s'achève dans un acte de foi. Ah, c'est merveilleux! C'est le contraire de l'hypersensibilité, puisque mon hypersensibilité, c'est la sensibilité qui n'est plus ordonnée à la vie spirituelle. Et voilà que Jésus institue les sacrements, c'est pas vitose, bien sûr que non, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est, ça a une autre utilité, enfin une utilité, si on peut parler comme ça, hein. C'est pour notre vie spirituelle surnaturelle. Mais si je suis bien éveillé, ça réordonne ma sensibilité à la vie spirituelle, c'est une merveille, c'est directement contraire aux conséquences du péché originel. C'est génial d'avoir inventé les sacrements. Voilà, la prière, donc je fais attention. La lecture, si j'aime lire, attention, si j'aime lire, je peux lire de deux manières différentes. Je peux lire avec l'imaginaire ou je peux lire avec l'intelligence. Si je lis avec l'imaginaire, je lis très très vite, mais après, je ne me rappelle même plus de ce que j'ai lu. Tandis qu'avec l'intelligence, j'interroge. Seule l'intelligence interroge. L'auteur, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Pourquoi il le dit maintenant qu'il n'a pas dit avant ? Alors évidemment, c'est une lecture qui est plus lente, mais au lieu de développer l'imaginaire, je développe l'intelligence. Voilà, alors attention à tout ce qu'on nous propose aussi, hein, comme thérapie de relaxation, où on vous demande, au contraire, de mettre de côté l'intelligence. Hein, c'est-à-dire, alors je ne dis pas que c'est mauvais, dans certains cas, ça peut être bon, mais quelqu'un qui est hypersensible, c'est pas très bon pour lui. Hein, il faut faire attention parce que mettre de côté l'intelligence, c'est immédiatement développer l'hypersensibilité. Donc si je suis déjà hypersensible et que je me donne dans une thérapie de relaxation, ben, ça ne va plus du tout.
Alors Père, est-ce que vous avez déjà l'idée du thème que vous allez aborder la fois prochaine ?
Oui, alors ça serait une autre porte ouverte qui est les liens affectifs avec des personnes, des objets ou des lieux qui sont infestés. Parce que le lien affectif est les vases communicants. Et donc si je suis en relation avec un lieu où est présent le démon, avec une personne qui est liée au démon, etc., eh bien je risque de me lier moi-même au démon. Donc ça c'est une autre porte ouverte.
Mais en tout cas, Père Paul-Marie, merci beaucoup pour ce nouvel enseignement.
Voilà.
Et puis on vous retrouve donc le mois prochain.
Eh bien, je salue bien nos auditeurs.